Eh bien, écoutez, donc, Monsieur Thierry Jean, la parole.
Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, nous sommes là au croisement de deux éléments importants de l'évolution de la vie économique de Metz. Le premier, c'est l'évolution économique et technologique de l'activité de TDF, qui se traduit par une réduction sensible des effectifs de TDF à Metz et la nécessité de trouver une solution provisoire pour installer l'INSEE. En ce qui concerne TDF, nous avons même craint un moment que l'entreprise ne quitte purement et simplement la ville. Et lorsque nous avons, avec le maire de Metz, rencontré le directeur général de TDF, celui-ci nous a dit que la pérennité du site messin pouvait être assurée à partir du moment où nous apportions une solution immobilière à TDF, la solution immobilière étant d'alléger leurs charges, sachant qu'ils n'étaient pas forcément prêts à déménager, puisque le bâtiment qu'ils occupent bénéficie d'équipements spécifiques et qu'il fallait donc, en fait, trouver une solution. Cette solution, nous l'avons trouvé sous forme de prise en charge partielle de ce bâtiment, prise en charge dont on verra ultérieurement les modalités juridiques. Le bâtiment pourrait faire l'objet d'un rachat par la SEM du Technopôle. Ça a été évoqué hier soir en conseil d'administration. Par contre, dans un premier temps, comme il s'agit d'installer l'INSEE pour 3 à 4 ans en fonction de la durée des travaux de l'immeuble de la place du Roi Georges, eh bien, nous avons dû, réaliser des études techniques, conduire les différentes négociations avec France Domaine, INSEE, TDF pour arriver à une solution qui se traduit par la location par TDF de surface de l'ordre de 3000 m² de surface utile à l'INSEE à compter du 1er septembre prochain. Pour que ça puisse être mis en œuvre, il convient, puisque c'est l'objet de la motion, de lever deux obstacles. Le premier obstacle est purement juridique, il s'agit d'autoriser TDF à sous-louer. Aujourd'hui, le bâtiment de TDF est construit sur un terrain qui appartient à la ville de Metz, et dans le bail qui lie la ville de Metz à TDF, donc le bail emphytéotique dont l'objet est le terrain, ce bail interdit à TDF de sous-louer tout ou partie de son bâtiment. Donc ça, c'est le premier point de la motion. Il vous est proposé d'autoriser TDF à sous-louer. Le deuxième point, c'est un bâtiment qui a été conçu pour un seul utilisateur et qui va en avoir deux. Ça implique un certain nombre de modifications et ces modifications, il vous est proposé qu'elles soient prises en charge par la ville de Metz, eu égard au fait qu'au terme du bail, la propriété de l'immeuble reviendra à notre collectivité. Voilà ce qui vous est soumis ce soir. Je vous remercie.
Voilà. Alors, qui souhaite prendre la parole? Alors, Madame Zimmermann, Docteur Califé,
Monsieur Maréchal,
Monsieur Aldrin, Monsieur Lécadier. Alors, Madame Zimmermann. Pardon, Monsieur Grosner.
Oui. Madame Zimmermann. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Ce point m'amène, Monsieur le maire, à évoquer rapidement, de façon plus globale, la stratégie de la ville de Metz par rapport aux restructurations militaires. Ce point nous indique qu'effectivement, nous avons aujourd'hui, je dirais, plus de réalité par rapport à ces agents INSEE. Bon, quoique ce ne sont pas les chiffres totaux encore qu'on nous avait promis. Et Monsieur le maire, je souhaiterais, si vous voulez, que quand même, face à cette situation qui va aller en s'aggravant, parce que plus on va avancer, plus on va perdre de militaires, les compensations ne sont pas là, c'est clair. Et vous savez, Monsieur le maire, que face à cette situation, j'ai toujours eu la même politique. D'une part, j'ai refusé de voter la loi de programmation militaire en juin 2009. Et je continue à dire aujourd'hui que ces compensations ne sont pas du tout au niveau espéré lorsque on nous a annoncé les restructurations militaires. Et je crois qu'il est urgent aujourd'hui, Monsieur le maire, que nous puissions prendre, je dirais, une méthode de démarche collective et solidaire face à une situation qui, moi, me pose beaucoup de problèmes parce que je vous donnerai trois exemples très rapidement. D'une part, on nous avait annoncé trois compagnies de CRS dans la caserne Seret. Or, en fait, il y a deux compagnies et c'est des compagnies qui étaient déjà en Moselle. Donc, il est clair que ce n'est pas une compensation. Premièrement. Deuxièmement, je suis quand même, malgré les propos quelque peu rassurants, hein, parce que je ne veux pas être trop méchante du ministre de la Défense, aujourd'hui je suis inquiète également pour l'hôpital Le Gouest. Donc là, monsieur le maire, je crois qu'il s'agit là aussi d'avoir de réelles certitudes par rapport à cet hôpital militaire qui, sans aucun doute, va là aussi avoir quelques difficultés à continuer à exister à partir du moment où on n'y a plus suffisamment de militaires à faire venir. Alors, moi, je veux bien qu'on m'explique qu'on va faire venir des militaires de la France entière pour venir à Le Gouest. Mais enfin, il ne faut quand même pas nous prendre non plus disons, un petit peu des simplets. Et enfin, je souhaiterais également, monsieur le maire, que très rapidement, nous puissions, à part ce que vous avez demandé, notamment l'école vétérinaire, mais que nous puissions avoir, disons, une vision de ce qui peut être réalisé sur les terrains qui vont rester vagues et qui vont rester en friche sur Frescati. Donc, monsieur le maire, je crois que les trois ans qui viennent vont être extrêmement importants et je pense qu'il sera utile que, à la fois, l'ensemble du conseil municipal, mais également les parlementaires, si vous acceptez, bien entendu, que nous puissions essayer de travailler ensemble, nous puissions demander le maximum de ce qui nous avait été promis au moment des restructurations militaires. Merci, monsieur le maire.
Docteur Califé.
Merci, monsieur le maire. L'INSEE, il faut tout faire pour qu'elle vienne à Metz. Ça, on est tout à fait d'accord. Il n'y a aucun problème là-dessus. Cette motion nous pose quelques problèmes, même si nous pensons la voter, il n'y a aucun problème là-dessus, mais on a certaines interrogations. Une interrogation de forme, mais je pense que vous avez réglé le problème, puisque vous savez que ce technopôle, la gestion du technopôle est de la compétence de Metz Métropole, mais je pense que cette motion est faite en concertation avec Metz Métropole, donc j'élimine ce problème. Par contre, il y a un problème de fond qui rejoint un peu ce que disait Mme Zimmermann, mais si vous permettez, je vais rentrer un peu plus dans les détails pour rappeler quand même que TDF a déjà perdu 50% de ses effectifs en septembre 2008, je crois, ou 2009, et il ne reste que 60 personnes sur ce site. Est-ce que vous n'avez pas peur, monsieur le maire, que le fait de les aider à compenser ou leur perte ne va pas progressivement les éloigner de Metz et puis ils n'auront plus d'attache, ils partiront? Donc moi, c'est un peu mon inquiétude. La deuxième, c'est que est-ce qu'on a la certitude que les 80 agents qui vont sûrement venir et probablement venir ne seront que les derniers, peut-être 190 en 2012, mais on trouve de la place pour 80 agents, l'État se contenterait peut-être de ça, on n'a pas peur que ça soit le petit cadeau qu'on a eu pendant cette flambée, ce mécontentement, puis qu'il n'y aura rien après? Ne pensez-vous pas qu'il faut maintenir la pression pour que l'État achète au préalable le bâtiment de la SNCF? Comme ça, ils auront vraiment quelque chose sur place et ils seront obligés à l'aménager, à y mettre du monde. Je crois que le dossier n'est pas simple, je suis d'accord avec vous, mais il y a certains points qu'on pourra peut-être conforter avant d'aller à fond dans ce dossier. Je rappelle quand même qu'il y a eu une annonce lors des 25 ans du Technopôle, de Georgia Tech, où on a annoncé la venue de Georgia Tech partiellement dans ses locaux. Je sais que ça n'a pas été fait pour des raisons techniques, mais bon, c'est vrai qu'on est un peu interrogatif sur ce point. Alors, on voulait attirer votre attention sur ces différents point d'interrogation que nous avons. Merci.
Merci. Monsieur Aldrin.
Oui, merci, monsieur le maire. Bon, il ne s'agit pas de refaire le débat sur les restructurations militaires. C'est une réforme qui était à la fois nécessaire et douloureuse, nécessaire au niveau national et douloureuse pour notre ville. Mais je voudrais, mon propos, simplement souligner, la, me semble-t-il, la responsabilité du gouvernement, hein, qui a pris une décision importante en faisant le choix d'attribuer une compensation significative par le transfert de l'INSEE, d'un pôle statistique in fine. Je crois que l'enjeu fondamental pour les prochains mois et les prochaines années, c'est le devoir d'accueil dans les meilleures conditions du personnel de l'INSEE. Et ça, je pense que c'est de votre responsabilité sur les questions sociales, hein, notamment pour les familles qui vont venir avec leurs enfants, l'orientation dans les places en crèche, etc., sur les aspects commerçants, la valorisation de la vie culturelle, etc., etc. Donc c'était simplement pour souligner dans mon propos ces aspects et vous dire que sur un autre point de compensation, l'école de vétérinaire, nous sommes parfaitement dans un consensus car c'est un dossier qui est très important et pour lequel vous aurez tout notre soutien.
Monsieur Maréchal.
Maire, mes chers collègues, je voudrais prolonger les inquiétudes de Madame Zimmermann en y rajoutant peut-être quelques éléments supplémentaires. S'agissant de l'appréciation de la politique du président de la République, mon appréciation n'est pas très originale, c'est celle de la majorité des Français qui n'accordent plus leur confiance au chef de l'État. Et il est donc, à mes yeux, très impératif pour nous de nous entourer de toutes les garanties nécessaires pour ne pas se faire rouler dans la farine. Donc, je voudrais faire quelques... Et en matière, comme on parle de l'INSEE, il est bon de rappeler les chiffres et de vérifier si le compte est bon. Alors, moi, je pense que par rapport à la situation actuelle du site de TDF, ça a été rappelé, il reste en gros 60 salariés plus une dizaine d'intervenants extérieurs. Lors du dernier conflit social, j'avais demandé au préfet d'organiser une table ronde pour discuter de façon collégiale de l'avenir du site. Monsieur le préfet a daigné ne pas me répondre, donc c'est toujours intéressant. Mais la question qu'il faut se poser ici, si nous précipitons la vente du bâtiment, est-ce qu'on ne va pas favoriser le départ de TTF ? Autrement dit, on imagine mal un groupe comme TDF totalement piloté par une stratégie financière de vendre actuellement, de vendre le bâtiment et de se louer une partie pour maintenir l'activité. Je pense, moi, qu'il faut être très, très attentif à ces 70 emplois qui sont des emplois extrêmement qualifiés et ces salariés sont très inquiets. Je voudrais également rappeler que la délocalisation de l'INSEE se fait dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, dont l'objet essentiel, c'est d'attaquer l'emploi public, mais aussi de défaire les puissances publiques d'outils de services au service de la population. Et donc, cette politique néolibérale doit être combattue dans tous ses aspects et dans toutes ses dimensions. Nous le faisons assez fortement quand il s'agit de la suppression de l'emploi dans l'éducation nationale. Il faut également être attentif à la préservation des emplois publics dans l'ensemble des secteurs relevant de l'État. Il est de notoriété publique que M. Nicolas Sarkozy, chef de l'État, ancien maire de Neuilly, a des comptes à régler avec l'INSEE. À l'époque, il était ministre du budget, il avait déjà quelques soucis, il voulait déjà se débarrasser de cet outil public. Je rappelle que l'INSEE est un établissement public qui fait son travail en toute indépendance. Je rappelle également qu'il y a 10 ans, les effectifs de l'INSEE étaient de 7300 salariés. Ils sont tombés aujourd'hui à moins de 6000, 5500 pour être exact. Et donc, on a un outil de service statistique au service de la démocratie, un service d'analyse des réalités sociales et économiques qui aujourd'hui est fortement fragilisé. Parlons encore chiffres. Le rapport nous annonce la création d'une centaine d'emplois fin 2011, et de 190 autres fin 2012. J'ai ici en ma possession un courriel signé par un certain Jean-Philippe Cotise qui annonce dans un mail adressé à ses salariés, faisant le point sur la situation de la délocalisation de l'INSEE, l'arrivée de 80 agents fin 2011 et de 180 en tout fin 2012. Donc on est quand même très en deçà des chiffres qui sont contenus dans le rapport. Il s'agit donc fin 2012 d'un total de 180 emplois et pas de 290. Plus précisément encore, la semaine dernière s'est tenue une réunion interne à l'INSEE. Cette réunion avait pour objet de faire notamment le point sur la délocalisation de l'INSEE. Et un certain nombre d'informations ont été données au personnel. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on a dit à cette réunion ? Je crois que ça nous intéresse. Premièrement, s'agissant des 80 emplois, seulement 40 seront des emplois réellement décentralisés à Metz. Les 40 autres sont des emplois de contractuels créés sur place. Pire encore, ce sont des emplois qu'on va proposer dans le cadre de la réorganisation des services de l'État en Moselle à des fonctionnaires des douanes ou des services des finances notamment. Donc, on va finalement transférer très très peu d'emplois à Metz. Le projet final, quant à lui, le chiffrage qui est à l'heure actuelle discuté à Malakoff, le chiffrage, aujourd'hui, il tourne autour de 400 à 450. Très très loin des 625 ou des 680 annoncés préalablement. Un mot encore sur l'outil statistique. C'est vrai qu'on a annoncé le transfert d'un certain nombre de services, et c'est vrai qu'à un moment donné, on avait évoqué la création d'un service à vocation transfrontalière, d'un outil public de statistiques européennes. Et là-dessus, le site de Metz était relativement pertinent, car on est dans la grande région, on est à proximité du Luxembourg, qui est le siège d'Eurostat, et donc on aurait pu là créer quelque chose de nouveau. On parle beaucoup au niveau européen des termes de comparaison internationale, de compétitivité du travail, et donc il aurait été intéressant, effectivement, d'avoir des statistiques élaborées par des chercheurs en toute indépendance, et c'était le rôle de l'INSEE de créer dans notre région un outil comme ça. Mais en réalité, ce projet-là, qui avait vraiment une valeur ajoutée supplémentaire à la fois d'un point de vue régional et d'un point de vue national, a été abandonné. La délocalisation de l'INSEE, le chiffre qu'on annonce, c'est un coût quand même entre 50 et 80 millions, certains évoquent 100 millions. Mais bon, l'hypothèse juste, c'est entre 50 et 80 millions. Somme à comparer aux 32 millions d'euros qui sont contrats dans le contrat de redynamisation. Voilà. Donc, c'est quand même des choses qui sont importantes. Alors, s'agissant de du vote de cette subvention, on nous demande ce soir de voter 3 800 euros de subvention.
38 000 euros,
oui, pour payer une facture à la place de l'État. J'ai bien entendu ce que disait Thierry Jean, que ces travaux créeraient un plus sur le bâtiment. Encore faut-il dire et reconnaître que si l'accueil de l'INSEE n'avait pas été prévu, on n'aurait pas fait ces travaux. Alors, on nous demande donc de payer une partie de la facture à la place de l'État. Demain, après-demain, sur le site de la gare de Metz, peut-être qu'on va nous demander 1 million. Peut-être qu'on va nous demander 5 millions, peut-être qu'on va nous demander 100 millions, peut-être qu'on va nous demander de tout payer. Qu'est-ce qu'on fera alors dans ce cas-là ? Ceux qui décident d'un transfert doivent, à mes yeux, en assumer la facture. Les décideurs doivent être, à mes yeux, les payeurs. Nous sommes déjà victimes de la carte militaire. Il faudrait encore que l'on participe aujourd'hui au financement de la petite contrepartie que nous accorde l'État. Je voudrais aussi informer cette Assemblée d'un dernier élément, j'en terminerai là-dessus. L'INSEE, dans son exercice budgétaire 2011, a reçu de l'État une enveloppe supplémentaire de 2,4 millions d'euros intitulée MES 2011. Il me semble que dans ces conditions-là, la participation financière de la ville n'est vraiment pas indispensable elle n'est financièrement pas indispensable, elle est moralement et politiquement pas acceptable. Je vous remercie.
Merci. Monsieur Krosner.
Monsieur le maire, chers collègues, dans ce premier point de délibération, on aperçoit bien deux enjeux par rapport à l'INSEE. Le premier enjeu, est-ce qu'on peut réussir à développer sur Metz un pôle statistique public ? Deuxième enjeu, c'est est-ce qu'on est en capacité d'accueillir dans les meilleures conditions, lieu de travail, accueil dans la cité, les agents volontaires de l'INSEE qui souhaitent venir à Metz. Autant je suis parfaitement en phase avec le contexte particulièrement difficile de l'INSEE, avec la réduction des moyens humains et un budget contraint, autant je pense que nous avons à Metz l'obligation de réussir le mieux possible l'accueil et le développement de l'INSEE sur notre territoire. Je pense que si on réussit, comme c'est envisagé, et j'y crois, la création d'un centre de collecte multimodale et un centre de formation aux statistiques européennes avec Eurostat, j'y crois aussi encore, la Lorraine et Metz seront clairement identifiées comme pôles statistiques publics majeurs de référence dans cette discipline. L'enjeu est donc extrêmement important pour notre territoire. Le deuxième point est l'accueil des agents volontaires de l'INSEE à Metz, lieu de travail, comme j'ai dit, accueil dans la cité. Je trouve que l'accueil des agents de l'INSEE dans le bâtiment TDF est pour moi une très bonne solution. Une bonne solution pour le personnel de l'INSEE, mais également pour le personnel de TDF qui vit, comme ça a été dit précédemment, très difficilement la dernière restructuration. Je pense que créer un environnement scientifique de qualité dans ce lieu peut faciliter, même si ce n'est pas les mêmes compétences scientifiques, peut faciliter un plus au niveau des échanges entre les personnels de TDF et ceux de l'INSEE. Et tous les exemples de rencontres de plusieurs catégories de personnel dans le même bâtiment peuvent avoir des effets extrêmement bénéfiques. Donc je crois beaucoup, moi, à cette présence et à ce lieu d'échange et de développement scientifique et humain. Monsieur le maire, accueillir, alors sans agents à la fin 2011, comme c'est écrit dans le document, et 190 sur 2012, ou 190 sur 2012, ça reste quand même un problème important à éclaircir, nécessite de mettre en place un dispositif exceptionnel d'accueil pour les agents et les familles qui souhaitent s'installer sur notre territoire. Il faudrait mettre en place à Metz en accord avec la direction de l'INSEE et les représentants du personnel, une structure légère afin d'aider concrètement le personnel et ses familles à s'installer le mieux possible dans notre ville. Les premiers échos de la qualité de l'accueil à Metz seront décisifs pour la réussite de la venue de l'INSEE sur notre territoire. Je vous remercie.
Monsieur Lecadir.
Merci, monsieur le maire, chers collègues. Le débat que nous avons ce soir est un débat, me semble-t-il, intéressant. On l'a eu d'une certaine façon autrement il y a quelques mois, parce que pour ma part, je pense qu'il interroge directement la politique de l'État et la politique du gouvernement actuel. Comme on l'a dit à maintes reprises dans cette Assemblée, cette politique a des impacts très concrets sur notre ville. Ce n'est pas du virtuel, c'est du réel. Et depuis 2008, cette politique n'a pas épargné notre ville. Je citerai trois exemples rapidement. Le premier, c'est évidemment le débat que nous sommes en train d'avoir en ce moment. C'est la question de la restructuration militaire qui, bien évidemment, est désastreuse pour notre ville. Elle est injuste pour notre ville puisqu'on demande aux Messins de supporter la majorité de l'effort. Et je crois que ça, il faut toujours le rappeler, malgré les compensations, malgré les paroles de l'État, il faut toujours rappeler qu'on demande aux Messins, à une minorité, de supporter un effort qui est insupportable, puisque les chiffres, on les connaît, on risque de perdre carrément une ville en termes d'habitants. Le deuxième élément qui impacte notre ville avec cette politique du gouvernement, c'est la question de l'éducation, des postes dans les écoles. On est encore ces jours-ci en mobilisation. La ville s'est engagée fortement sur cette question, aux côtés des parents d'élèves et des enseignants. Et je crois qu'il faut le rappeler, les choix en termes d'éducation nationale de ce gouvernement touchent négativement et de façon assez néfaste, là aussi, notre ville. Enfin, la baisse des dotations de l'État, je crois qu'il faut le rappeler, depuis 2008, les dotations de l'État ne cessent de baisser au niveau de la DGF, et on le voit très concrètement, puisque ça nous demande des efforts pour boucler un budget, et ça nous demande des efforts pour assurer notre politique. Et face à cela, l'impact et les conséquences, je le disais, sont désastreux, et à chaque fois, sont un coup dur pour les médecins. Face à cette politique, notre majorité et vous, monsieur le maire, sommes engagés avec volontarisme pour assurer l'avenir de cette ville. D'abord, en essayant de répondre très concrètement à ces décisions négatives sur notre ville, mais aussi en essayant d'aller de l'avant, tête haute, et en essayant de préparer l'avenir de cette ville. L'exemple du Métis ou de l'ensemble des projets que nous mettons en œuvre sont de beaux exemples d'une volonté de garder la tête haute et d'aller vers l'avant. Et face à cela, vous n'avez cessé, vous, monsieur le maire, une nouvelle fois, de vous mobiliser et d'interpeller le gouvernement. Alors c'est une affaire compliquée, puisque sur l'ensemble de ces dossiers, les ministres se succèdent, avec à chaque fois une obligation de remonter au créneau, de renvoyer les dossiers, de renvoyer les courriers. C'est un effort important qui est demandé à l'ensemble des services de la ville. Je crois que ça, c'est pas insignifiant, c'est vraiment quelque chose d'important, puisque rien que dans le domaine de la défense, on a connu 3 ministres. Et pour terminer, je rejoins ce que dit mon collègue Gilbert Krosner. Je crois que c'est quand même une bonne nouvelle qu'une promesse commence à voir le jour et commence à se concrétiser. Et je suis, pour le coup, un peu surpris, voire interrogatif, face au positionnement de l'opposition, dont certains nous disent qu'effectivement la réforme était justifiée et nécessaire. Donc je suis assez surpris d'entendre ça. Et puis d'autres, comme Madame Zimmermann, dénoncent fortement cette politique, en tout cas sur ce plan-là. Mais je crois que cette opposition, à part si j'ai mal compris, est un soutien actif pour le gouvernement et pour le Nicolas Sarkozy. Donc je suis là, pour le coup, assez surpris.
Merci. Je vais demander à Monsieur Thierry Jean de répondre sur les aspects des locaux.
Oui, Monsieur le maire, effectivement, je vous laisserai répondre sur tout ce qui relève des restructurations militaires en général. Sur la pérennité de TDF à Metz, il y a eu plusieurs questions. Pourquoi est-ce que le fait de réduire leur surface, contrairement à ce qui a été dit, ne va pas les inciter à partir ou à réduire encore? Tout simplement parce que aujourd'hui, ils ont à Metz un certain nombre d'équipements techniques de haut niveau et puis de personnel technique de haut niveau qui ne sont pas forcément mobiles. Cela dit, aujourd'hui, ils occupent... Alors, ils dimensionnent le bâtiment pour 79 personnes. Hein. Il y a eu plusieurs chiffres qui ont été cités. La configuration de TDF à Metz, c'est 79 personnes, ce qui pour un centre de recherche est loin d'être négligeable. Hein. Donc 79 personnes dans un bâtiment qui est beaucoup trop grand aujourd'hui et qui génère 290 000 euros de charges. Donc le simple fait d'économiser 2/3 de ces charges, parce qu'ils sont prises en charge par l'INSEE, c'est un avantage important. Et si effectivement nous réalisons l'opération de rachat, eh bien en plus ils récupéreront la valeur du bâtiment en cash, et ça les intéresse. Alors, pour ce qui est du coût, est-ce que c'est à nous de supporter le coût, et pourquoi l'INSEE ne paye pas? Alors l'INSEE va s'installer et ça coûte beaucoup d'argent. Il faut qu'ils aménagent entièrement les locaux, puisque ce sont des locaux qui sont bien évidemment clos et couverts, mais il faut qu'ils assurent le câblage et qui fournissent tout le mobilier, et la ligne budgétaire inscrite et évoquée par notre ami Maréchal, elle est destinée à ça. Donc nous intervenons sur des modifications de l'immeuble, et je le répète, en vertu du bail, l'immeuble est destiné à nous revenir, et donc c'est pour ça que c'est à nous de payer. Puis il y a un chiffre que j'ai pas donné, c'est celui du loyer. Le loyer que va payer l'INSEE est de l'ordre, bon, la négociation n'est pas tout à fait bouclée parce qu'on est encore sur des calculs de surface, mais va payer de l'ordre de 300 000 euros de loyer par an. Donc 300 000 euros de loyer rapporté à 38 000 euros d'investissement initial, je crois que ça, il faut pas dire que là-dessus l'État se désengage. Dernier point. Celui de l'accueil. Alors, il y a 2 ans déjà, lorsque la venue de l'INSEE s'est annoncée concrète, il a été demandé conjointement par la ville et par l'agglo à Metz Métropole Développement de veiller à ce que l'accueil se réalise dans les meilleures conditions possibles. Nous avons notamment passé une convention avec Lorraine International, qui a l'expérience de l'accompagnement de cadres entre guillemets délocalisés qui arrivent. Donc ils sont notre prestataire sur cette affaire. Et puis par ailleurs, eh bien le travail qui est fait pour faciliter leur installation techniquement parlant, et pour faire en sorte qu'ils arrivent le 1er septembre dans des locaux qui soient accueillants, ça fait aussi partie de cette préoccupation. Et c'est pour ça d'ailleurs que la solution TDF était sans doute la seule sur l'ensemble de l'agglomération. Parce que sinon, on aurait contraint des gens qui choisissent de venir à Metz à travailler dans des conditions qui relevaient plus du campeur que du chercheur. Et ça, nous voulions à tout prix l'éviter. Et je rejoins bien évidemment Gilbert Krosner quand il dit qu'il y a des synergies possibles entre des gens qui ont des passions communes pour les systèmes d'information. Et ça ne peut que générer des métissages intéressants. Et je crois qu'on fait là une bonne opération. Elle est transitoire. Dernier point, le docteur Califé, bien sûr que nous travaillons en relation avec Metz Métropole et que c'est en totale phase avec le président de Metz Métropole qu'on a destiné le bâtiment de TDF à ça. C'est vrai que également tout à fait en phase avec Jean-Luc Baul, nous envisagions un moment l'installation de l'Institut Lafayette. Pour des raisons techniques, le choix qui a été fait, là encore en pleine symbiose entre les deux collectivités, c'est de construire. Donc Lafayette fera l'objet d'une construction neuve et le bâtiment de TDF aura une autre destination qui est l'objet de la présente motion.
Bien, merci. Je pense que c'est un débat qui est très important. Alors, d'abord, je voudrais intervenir sur la prise de position de Mme Zimmermann. Je ne sais pas si Mme Zimmermann faisait allusion à la loi de programmation militaire de 2009-2014, c'est celle-là ? D'accord, alors, on vient de faire vérifier. Hein. Vous n'avez pas voté contre, vous n'avez pas pris part au vote, vous n'étiez pas là. Voilà, nous sommes d'accord. Donc voilà, c'est une rectification que je voulais faire. Vous n'avez donc pas voté contre. Je vous remercie de cette précision. Nous avons donc, par contre, le docteur Jacquat a voté pour, ainsi que M. Grosdidier, pour parler des 3 parlementaires de Metz. Maintenant, s'agissant de notre volonté de protester contre les restructurations militaires, je suis extrêmement sensible à vos encouragements. Nous l'avons fait. Et en même temps, nous avons considéré qu'il était de notre devoir de faire œuvre de pragmatisme et de travailler avec les acteurs. Figurez-vous que s'il y avait eu que les acteurs de l'État, je ne sais pas si on aurait réussi cette implantation de l'INSEE. Je considère pour ma part que les choses ne nous ont pas été du tout facilitées et dans beaucoup de secteurs. Et je vous le dis, Madame Zimmermann, si vous connaissez du monde au gouvernement, il faut faire passer le message. On a eu le sentiment que c'était extrêmement difficile. J'en veux pour preuve que, pour des raisons de facilité, après que nous ayons pris, nous, les premiers contacts avec Monsieur Cottis, même avec les représentants du personnel, j'ai réussi ici les syndicalistes de l'ensemble de l'INSEE pour leur montrer que la ville de Metz n'était pas entouré de barbelés et cerné par des cimetières militaires. Nous avons tissé des liens avec les plus hauts responsables de l'INSEE pour favoriser cette implantation. Et nous avons également proposé des locaux situés sur la ZAC de l'amphithéâtre à l'initiative de Richard Lioger, qui est en charge de l'urbanisme. Et nous avons porté au ministre des Finances un engagement de promoteur immobilier donnant entièrement satisfaction aux besoins de l'INSEE pour une somme singulièrement inférieure à celle que l'État va devoir débourser pour acheter puis réhabiliter l'ancienne gare de Metz, place du Roi Georges. Et cette proposition nous a été refusée sans explication. C'est-à-dire que ce n'était pas négociable. On nous a dit, j'ai reçu une lettre, ministre, c'est non. Et donc on est parti dans un montage compliqué que nous avons largement contribué à faire aboutir. Et vous connaissez cette fameuse partie de domino, hein, où la caisse d'épargne doit s'installer dans un bâtiment à construire sur la ZAC de l'amphithéâtre, on en parle le point d'après. Les caisses d'épargne libérant ces locaux, la SNCF pourrait s'y installer parce qu'il y a 400 personnes, je le rappelle, dans les locaux actuels de la place du Roi Georges. Après quoi, on pourra faire des travaux qui permettront l'installation de l'INSEE. Et croyez-moi, s'il y a quelqu'un qui a bouillé la chemise pour accompagner les gens de l'INSEE, ça s'est passé ici. On a fait ce travail-là et régulièrement, je m'entretiens avec M. Cottis et avec d'autres responsables qui d'ailleurs sont en mission ici régulièrement. Je voudrais dire maintenant que pour les promesses du gouvernement et les promesses du président de la République, je me réserve quelques temps encore avant de faire un bilan public. Mais effectivement, le compte n'y est pas. Et l'heure du bilan viendra. Et un certain nombre d'annonces qui ont été faites n'ont pas trouvé le début du commencement, même du nom du responsable du projet. Et bien entendu, nous saurons rendre public, le moment venu, auprès de la population, par rapport à une échéance qui arrive. Parce qu'il est vrai que je n'ai jamais douté de la parole de l'État, mais je me suis toujours efforcé de faire en sorte qu'elle soit tenue. Et pour l'instant, nous en sommes loin. Maintenant, s'agissant de vos craintes, Madame, par rapport à l'hôpital militaire, moi, avec ce qui s'est passé, je suis méfiant et vigilant de tout. Voilà. L'hôpital de Gouët, c'est un hôpital qui est un hôpital militaire. La France a décidé de continuer à avoir un service militaire des armées, un service médical des armées. Ce service fonctionne. D'autres pays importants, comme l'Angleterre ou autres, l'ont abandonné. Nous avons la chance d'avoir un hôpital militaire qui ne dessert pas la garnison de Metz, mais qui dessert le Grand Est. Et donc, je ne suis pas aussi désespéré que vous sur l'immédiateté du danger. Il n'empêche que je reste vigilant, comme je reste vigilant pour l'ensemble des services de l'État. Et c'est en permanence que nous essayons de consolider, dans d'autres secteurs nous y arrivons assez bien, je ne veux pas en parler ici, la présence de l'État au niveau de la préfecture de région. Et ceci compte beaucoup. Docteur Califé, je voudrais vous dire que vous n'avez pas suivi un épisode. Je vous ai tout pardonné. Vous n'êtes plus en responsabilité. Simplement, je vais vous dire où on en est. L'État a déjà acheté à la SNCF, j'ai assisté à la signature notariée, la gare. La gare. Non, c'est l'acte. L'acte a été signé devant moi. Alors, ça a été signé à la préfecture et nous étions plusieurs à assister et c'est une décision qui a été prise et qui est maintenant formalisée, c'est-à-dire que l'État s'est enclenché la procédure qui va aboutir, puisque je rappelle que l'INSEE est un service du ministère des Finances, a enclenché la signature. Bon, je vous remercie Monsieur Maréchal des précisions qu'il nous a apportées, parce qu'il va les chercher aux sources. Monsieur Maréchal a des sources intéressantes, s'agissant, par exemple, de qui vient à Metz. Effectivement, Monsieur Maréchal a raison, j'ai expliqué comment ça marche. Bien, il y a un certain nombre de gens tout à fait compétents. On peut imaginer qu'une secrétaire qui est actuellement employée à la base aérienne, elle peut être secrétaire à l'INSEE. C'est pas scandaleux, parce que supprimer des postes à la base aérienne et puis créer des postes à l'INSEE, on peut concevoir qu'il y ait des mutations de cette nature. Si bien qu'effectivement, il y a à peu près la moitié des postes qui sont des postes qui viennent de l'extérieur. Et je peux vous dire, en citant M. Cottis, le directeur général de l'INSEE, que l'INSEE a trouvé, sans trop de difficultés d'ailleurs, des cadres tout à fait intéressants, tout à fait intéressés à construire le projet de Metz, puisqu'il s'agit d'un projet ambitieux, et que l'INSEE se restructure largement autour de ce projet-là. Et que à quelque chose malheureusement pour l'INSEE, ils ont des difficultés avec les RGPP, personne ne l'ignore, il y a des réticences du personnel, il y a même des réticences des élus locaux de toute nature qui ont signé des pétitions comme quoi ils ne souhaitent pas qu'il se passe quelque chose à Metz parce que ça risque de se faire à leur détriment, mais pour les militaires c'était pareil, mais sachez que l'INSEE a un projet qui est très construit ici à Metz et que des cadres, notamment des jeunes cadres, sont intéressés par venir à Metz et nous n'aurons pas, d'après ce que je sais, de difficultés à recruter le personnel de l'INSEE correspondant. Je suis un peu plus inquiet sur
le chiffre de 450 que vous indiquez, est-ce qu'il a un caractère officiel ? Ou est-ce que c'est une indication qui vous est donnée à la base ? Toujours est-il que si jamais vous avez une note officielle sur un tel chiffre, j'aimerais bien la voir, j'en informerai l'Élysée aussitôt. Et également, je demanderai des explications à M. Cottis. Donc, si ce sont des informations qui sont officielles, et si c'est officieux mais sérieux, donnez-moi vos sources, ça m'intéresse. De cette façon, on pourra éventuellement allumer un contre-feu correspondant à la nécessité de respecter les engagements de l'État sur ce point, au moins. Sur ce point, au moins. Je dirais enfin que dans l'opération TDF, je vous rappelle que TDF tout simplement a été privatisé. TDF est une entreprise privée tout simplement, qui était obligée de payer un loyer très élevé, puisqu'elle avait en charge un bâtiment beaucoup trop grand, et que le meilleur moyen de stabiliser les 60 à 70 personnes de l'INSEE, de TDF qui sont à Metz, c'est de leur permettre d'être logés dans des conditions normales par rapport à leur capacité, à leurs besoins, et non pas de mettre sur le compte de cet emplacement de TDF à Metz des charges excessives, cela étant au contraire un facteur de risque pour une délocalisation définitive ou un transfert définitif. Vous l'aurez compris. Donc je voudrais conclure en vous disant que personne n'est plus attentif que moi aux conséquences de la restructuration militaire. Je le dis également aux gens qui sont dans l'opposition et qui ont des amis au gouvernement et qui ont des amis dans la majorité, qui ont des amis parmi les parlementaires de l'UMP, que s'ils peuvent donner un coup de main, tout le monde me dit que le projet d'école vétérinaire est très bien. Je n'ai que des félicitations sur le projet d'école vétérinaire. C'est un vrai bonheur, parce que les vétérinaires sont pour, le président du Sénat trouve ça très bien, il m'en fait une lettre, j'ai des encouragements de partout, avoir un système qui est mal adapté, qui n'est pas européen, qui ne permet pas d'avoir des vétérinaires dans l'agriculture. Bref, on nage dans le bonheur par rapport au projet de Metz. Et en plus de ça, on est aidé par Nancy. C'est vraiment un projet idéal. Sauf, et je m'adresse particulièrement aux parlementaires ici présents, sauf que, eh bien, ça se passe au niveau du ministère de l'Agriculture, et le ministère de l'Agriculture dit, moi je suis le seul ministère de l'Agriculture du monde à avoir la formation des vétérinaires et je tiens à la garder. Or, mon budget ne me permet pas d'ouvrir une cinquième école vétérinaire. Et nous disons, si vous voulez bien vous tourner vers l'enseignement supérieur, parce que l'enseignement supérieur est susceptible de, on nous l'a dit clairement, est susceptible de participer à des formations à Bac plus 5 comme ça se fait dans tous les pays du monde. Et nous avons là un blocage franco-français entre des administrations différentes et personne ne veut trancher l'affaire. Et dans l'état actuel des choses, on nous dit que ce projet est très intéressant et il risque de mourir en étant très intéressant. Donc, moi, je sais que j'ai encore une réunion importante à la fin de ce mois, le 31, sur le sujet et je continue à y travailler en mettant la pression. Nous avons des alliés. Nous avons des spécialistes qui s'investissent, nous savons ce que nous voulons faire, nous avons la bénédiction de tout le monde. Simplement, il se trouve que en France seulement, les écoles vétérinaires forment à Bac plus 7, donc 2 ans de plus que les vétérinaires sortent sans un master parce que ce sont des écoles, que les vétérinaires formés en France ne sont pas assez nombreux, qu'ils ne vont pas dans l'agriculture, qu'ils se spécialisent tout de suite et rapidement à chien et chat, hein, et à la sortie, on nous explique que tout ça, c'est bien dommage, que c'est regrettable, mais que ça ne peut pas changer, parce que ça affaiblirait le ministère de l'Agriculture. Donc voilà où on en est. Je vous donne rendez-vous au fur et à mesure de nos travaux, mais s'il y a, parce qu'on m'a conseillé de m'occuper un peu des restructurations militaires et de la suite, croyez-moi, on se donne du mal, hein, on se donne du mal, on est là simplement devant un blocage, qui est un blocage assez net, de la part d'un ministère. J'ai été reçu 2 fois par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et on m'a dit que c'était très intéressant tout ce que je faisais, mais que tant qu'on n'aurait pas ceci, cela, il y a beaucoup de choses avant, et que pour l'instant, il n'était pas question de faire une formation en commun avec l'enseignement supérieur, parce que c'était la tradition en France de le faire comme ça, et j'allais dire depuis Louis XV, parce que c'est à peu près ça. Voilà ce que je pouvais répondre sur les questions posées. En fait, on a un petit sujet, hein, malgré tout. C'est notre participation dans un immeuble qui nous reviendra, quoi qu'il arrive, puisque Thierry Jean l'a bien expliqué. Et c'est les charges du propriétaire de 38 000 euros. Et je mets la motion aux voix. Qui est contre? Deux contre. Explication de vote. Alors, explication de vote de Mme Zimmermann et du docteur Califé.
Alors, Monsieur le maire, je vais vous dire une chose. On va être très clair. C'est très sympathique, vos explications, de dire les députés UMP et la députée UMP, etc. Sauf que, Monsieur le maire, lorsque j'apprends, moi, à Paris, que vous allez effectivement voir et le directeur de cabinet de Monsieur le maire, et que vous allez voir, vous aviez un petit déjeuner normalement programmé avec Monsieur le maire, c'est sympathique de dire, mais je demande aux députés UMP de me soutenir, sauf que les députés UMP n'ont jamais, 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 jamais été sollicités par le maire de Metz. Voilà. Premier point. Et Monsieur le maire, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas que sur ce dossier-là que j'attends des documents qui me permettraient peut-être de travailler, non pas pour moi, mais pour la ville de Metz et pour les habitants de Metz. Alors, Monsieur le maire, les leçons de morale, ça va un moment, mais alors là, ça dépasse l'entendement. Et là, Monsieur le maire, je ne les tolère plus. Parce que, si vous voulez, je comprends même pas ce genre de discours. Je vais vous dire une chose, Monsieur le maire, nous sommes encore très loin de 2014. Et je crois que lorsque on a une ville qui a aujourd'hui des difficultés, eh ben, on met les dossiers sur la table, on évacue, mais vraiment, et je suis la première à le faire, toutes les appartenances politiques, et on va ensemble pour défendre des dossiers. Voilà. Et Monsieur le maire, ça fait depuis un certain temps que je vous le disais, c'est la patronne qui est en cause, c'est un certain nombre de dossiers, j'attends des documents, j'attends des mais au moins des billes pour aller plus haut. Je ne les ai pas. Voilà. Merci, Monsieur le maire.
Vous avez envoyé ces documents. Voilà. Monsieur Califé.
Oui, Monsieur le maire, je vais dire à peu près la même chose que Madame Zimmermann, mais sous un autre ton. Pour une fois qu'on a un dossier où on a l'unanimité pour. On voulait, oui, en tant qu'opposition responsable, attirer votre attention sur certains points. On n'est pas là pour vous agresser, d'ailleurs personne ne l'a fait.
Non, non, non. Je ne sens pas agressé.
On l'a été, et je le regrette, mais pour une fois, vous avez une opposition qui va dans votre sens, qui attire votre... Oui.
Non, mais qu'est-ce moi je suis très heureux que l'opposition me soutienne.
Non, mais écoutez... C'est un dossier. Alors, permettez-nous quand même de vous rappeler qu'on a aussi le même souci que vous, même si on n'est pas aux affaires, dans l'intérêt de Metz. Concernant l'école vétérinaire, plus d'une fois, on vous a dit qu'on est à fond pour. La seule chose, essayez d'inviter les parlementaires au petit déjeuner que vous faites à Paris. Voilà. Nous serons pour cette motion.
Rassurez-vous, je ne déjeune pas souvent avec les ministres.
Hein.
Oui, j'ai pas eu de petit déjeuner, j'ai été reçu par le directeur de cabinet.
Pourquoi vous n'avez pas eu? Le ministre de l'Agriculture était très étonné que vous n'ayez pas demandé à la députée UMP. Voilà.
Ah bon? D'accord. Bon. Enfin, il m'a fait quand même comprendre qu'il n'était pas question d'ouvrir une école vétérinaire par un autre biais que ceux qui existaient actuellement, à travers son directeur de cabinet qui, je vous le rappelle, est par nature sa propre voix. Hein, voilà. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Ah, il y a une abstention de M. Maréchal. Donc, ce sera noté au procès-verbal.